Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue à cette table ronde sur le sujet de l'éternité numérique, où nous allons parler effectivement de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des données, des informations conservées en permanence en ligne. Pour parler de ce sujet avec moi, j'ai Florence Hinkel, autrice de nombreux ouvrages jeunesse. On en citera deux en particulier pour cette table ronde, Mémoire en mi et Théa pour l'éternité. Jacques Priol, dirigeant territorial, fondateur de la société de conseil et stratégie Civitéos, qui travaille beaucoup sur l'open data, l'usage de la donnée et l'usage notamment de la donnée citoyenne. Olivier Parent, prospectiviste. Donc, prospectiviste, ça veut dire qu'on s'interroge sur comment sera l'avenir. Auditeur à l'Institut des hautes études pour la science et la technologie et fondateur du comptoir prospectiviste, j'y arriverai, et futurhebdo.com. Et Péric Pitrou, anthropologue, si je ne me trompe, chargé de recherche au CNRS et qui s'interroge sur qu'est-ce que c'est que le vivant, si j'y... J'ai tout bon ? C'est merveilleux. L'éternité, l'humanité en rêve depuis longtemps. C'est une espèce de graal inatteignable. Aujourd'hui, on a finalement la possibilité de laisser des traces numériques qui sont conservées, qui sont maintenues, disponible en permanence, mais un disque dur, c'est un tout petit peu moins solide qu'une tablette en marbre gravé. Je vais commencer par poser la question suivante. Étant donné qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de lire des bandes qu'on a enregistrées il y a 30 ans, est-ce que dans 50 ans, 60 ans, 100 ans, on sera encore capable de lire les données finalement numériques, à quel point sont-elles éternelles? Qui veut se lancer? Bon, Olivier, alors.
C'est vrai que c'est un problème qui est prégnant dans nos sociétés. Effectivement, on a de très bons exemples. Mais à mon sens, le plus important, c'est pas tant cette accumulation de ces données et de la problématique de conserver ces données que du sens à donner à ces données. J'aimerais citer ici deux exemples pour un petit peu poser le débat. On a dans notre héritage patrimonial, il y a les grottes de Lascaux, il y a Chauvet, et on a des signes, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et de même manière, en se projetant vers l'avenir, il y a des instituts comme par exemple l'IRSN, donc l'Institut national de radioprotection nucléaire, si je ne me trompe pas, qui s'interroge à savoir notre civilisation va laisser à l'avenir, aux générations suivantes, des déchets qui vont être dangereux sur des centaines d'années, donc sur des siècles, et voire pour certaines formes de nucléotides sur des milliers et des millions d'années, comment transmettre à l'avenir le fait que ces éléments sont dangereux pour la vie. Donc il va falloir imaginer à la fois des supports qui sont pérennes, on a vu le problème des bandes, mais imaginer des signes, des langages qui restent compréhensibles par l'avenir. On peut très bien imaginer dans l'avenir une rupture technologique où on perde la notion de danger, où on perde l'apprentissage du nucléaire. On peut imaginer des ruptures économiques qui fassent que un site ne soit plus entretenu. On peut imaginer plein de choses. Et la science-fiction s'est emparée à différents moments de ce genre de thème. Par exemple, Asimov, dans Fondation, fait que l'énergie nucléaire est devenue une religion, parce que dans cette civilisation qui pourrait être située dans quelques dizaines de milliers d'années, n'a plus la connaissance technologique pour entretenir les centrales nucléaires, donc on en fait une religion. Donc voilà, donc, à mon sens, le problème, il est un petit peu situé sur cette, dans ce périphérique, et sachant qu'il y a le problème du support magnétique ou pas est en train d'être interroge beaucoup de chercheurs, parce que je sais qu'il y a des recherches qu'ils ont fait pour refaire des microfilms sur des supports minéraux pérennes où on passe en 500 à 1000 ans, je crois, avec donc des on retourne aux bons vieux microfilms sur des supports minéraux, enfin on va dire un diamant artificiel, et on espère que on pourra transmettre notre héritage et nos données à l'avenir.
Alors si on parle de support, on utilise aussi la possibilité d'enregistrer d'informations sur de l'ADN, carrément, ça existe.
Alors oui, l'ADN, si ce n'est que si l'ADN a des capacités assez grandes, il y a toujours le problème de... Pour que l'ADN reste stable, il faut qu'il y ait un substrat, et ce substrat implique un environnement stable, sinon l'ADN va se détruire. C'est pour ça que le support sur disque minéral avec microfilm, pour, je crois que c'est le CEA qui fait cette recherche, propose cette solution, parce que c'est, semble-t-il, la solution la plus pérenne pour passer au-delà du siècle et du millénaire. L'ADN serait plutôt dans un esprit d'une utilisation, pas immédiate, mais en tout cas un stockage qui pourrait répondre à la problématique de la quantité de données que nos civilisations génèrent, qui est exponentielle, et qui peut poser effectivement la question qui est dans le préliminaire de cette table: est-ce qu'il faut tout garder? Et à ce moment-là, quel tri faire?
Bah oui, alors du coup, quel tri faire? Comment est-ce qu'on décide quelles sont les données à conserver? Comment est-ce qu'on décide finalement ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas, et qu'il décide? Perry.
Je veux bien prendre la parole, mais je répondrai pas à cette question tout de suite.
D'accord.
Pour un petit peu compléter et prolonger cette perspective anthropologique, je pense que la question qui est posée aujourd'hui implique au moins deux problèmes pour l'anthropologie. D'un côté, la question du couplage entre des organismes biologiques et des artefacts, et plus précisément entre la mémoire et des artefacts, et la question de l'anthropologie de la communication. Alors si on commence par exemple à aborder la question du couplage entre l'organisme et des artefacts, qui est un fait très ancien dans l'humanité, c'est la capacité en fait à développer les capacités organiques dans des outils qui sont des éléments extériorisés de l'organisme.
Là, il va me falloir un exemple concret.
Eh bien, le fait, par exemple, d'utiliser un marteau, le fait d'utiliser une pierre pour casser une noix, etc., atteste que dans le monde animal, mais aussi dans le monde humain, il y a eu un moment l'utilisation d'éléments matériels qui permettent de développer, de décupler la force de l'organisme physique. Il y a un anthropologue qui s'appelle Leroy Gourhan qui a écrit un livre fascinant qui s'appelle Le geste et la parole, qui est un récit des origines jusqu'à nos jours, dans lequel, dans une perspective très matérialiste, Leroy Gourhan essaye de montrer comment l'humanité a progressivement appris non seulement à utiliser des artefacts, des outils pour augmenter sa puissance corporelle, mais aussi pour libérer sa mémoire. Les livres, l'écriture, sont des systèmes qui permettent en quelque sorte de simplifier la transmission des connaissances sans avoir à être dans le face-à-face. Et il montre bien aussi que même au sein de l'écriture, il y a l'invention de systèmes qui permettent d'extérioriser de plus en plus la mémoire. Il prend l'exemple au Moyen-Âge, où au début on avait des textes qui étaient écrits mot à mot pendant des centaines de pages. La création d'index, selon le roi Gourhan, sont des systèmes qui permettent d'extérioriser la mémoire. Donc ce qui est intéressant, c'est d'observer, en fait, sur la longue durée, cette capacité des humains à peupler un monde avec des objets qui leur permettent de ne pas avoir à se remémorer continuellement les idées importantes, les valeurs, les systèmes de règles, etc. Donc c'est le monde des symboles qui vient, à un moment donné, nous permettre de créer une communauté hybride avec ces objets.
Donc pour vous, le numérique, enfin l'information dans le numérique, c'est une façon de conserver une mémoire humaine à très long terme.
Alors voilà, c'est l'aboutissement de ce moment-là. Et là, il y a un moment un petit peu de... d'ambivalence ou de confusion, puisqu'on parle de dématérialisation qui permet bien évidemment, à travers le numérique, il y a une simultanéité de certaines informations, il y a une accélération de la communication entre les humains. Dans le même temps, on sait très bien, en particulier avec les travaux de Bruno Latour, il ne faut pas imaginer que l'information ou les idées pourraient circuler en elles-mêmes. Au contraire, y compris pour Internet, il y a tout un dispositif socio-technique, matériel, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande évidemment une collaboration se faisant entre différents humains, différentes industries.
Et de la maintenance.
C'est extrêmement matériel. Donc cette dématérialisation de l'information et du numérique, évidemment, est indissociable de toute cette production de nouveaux éléments. Et c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un autre point que je voulais souligner. Il y a un archéologue qui s'appelle Jan Oder, qui, en s'appuyant sur des travaux d'archéologie qui remontent très loin dans l'Antiquité, montre que des inventions techniques fondamentales comme la roue, eh bien, conduisent en fait à un développement technologique qui consiste en fait à implémenter et à ajouter des éléments à partir d'un première invention basique. Et en fait, le monde technologique dans lequel on vit est une sorte de complexification continuelle de toute cette matérialité à partir d'objets qui ont été inventés il y a très longtemps. Tant et si bien que même dans le numérique, et surtout dans le numérique, on a, comme le texte de présentation le disait bien, eh bien, affaire à un monde qui est extrêmement encombrant.
Complètement. On a des quantités de données, des données plus ou moins fiables, des données qu'on conserve pas, de l'information finalement dans ce des masses d'informations. Et du coup, on n'a pas répondu à la question précédente. Et je ne sais plus où on suit. Allez-y.
Je vais essayer d'y répondre par un petit bout. Sur la question de ce qu'on doit garder, on a aujourd'hui, dans notre pays, un dispositif que l'on connaît de nom, que l'on n'est sans doute pas très nombreux à utiliser, encore que, c'est les dispositifs d'archivage public. Et les archives, elles sont gérées au niveau départemental. Dans chaque département, on a des archives dans lesquelles on va retrouver la trace, la mémoire, les documents de tout ce qui concerne la vie publique, la vie de la cité. Mais ça va de l'état civil des uns des autres, en passant par des trésors de fonds photographiques, en passant par l'activité des services publics qui interviennent sur le territoire. Et cet archivage public, il est extrêmement codifié. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que c'était un trésor national, qu'il fallait absolument le protéger. D'ailleurs, une fois qu'il est numérisé, parce que c'est un trésor national, très vite se pose la question de l'endroit où on va stocker ces choses-là, et on va vite arriver sur des sujets de type stockage souverain, données protégées, etc. Donc il y a des obligations légales qui existent depuis des décennies en France sur ce qu'on doit conserver, ce qu'on ne doit pas conserver. Et quand tout était en papier, ces obligations légales, elles allaient assez loin. On devait garder tous les documents officiels, mais on devait aussi garder un certain nombre de documents préparatoires aux décisions officielles. Et puis, on devait aussi garder des correspondances plus générales. Vous avez peut-être entendu parler du versement aux archives, des archives personnelles de tel ou tel responsable politique ou des choses comme ça. Et tant qu'on était sur du papier, on essayait de tout garder. Alors, je vais essayer de matérialiser ça de façon très concrète. Je vais prendre un département voisin, le Maine-et-Loire. Les archives publiques du Maine-et-Loire, c'est 40 km de rayonnage de papier, dans lesquels des chercheurs, des citoyens, tout le monde a accès, tout le monde peut aller chercher, tout ça est parfaitement coté, codifié, et ils ont entamé deux mouvements. Alors, pas que dans le Maine-et-Loire, partout en France, un mouvement, ça a été évoqué à l'instant, de numérisation. Aujourd'hui, dans le Maine-et-Loire, ils en sont à 5 millions de pages numérisées, c'est une infime partie des 40 km. Et en parallèle, ils commencent à archiver les données numériques. Tout ce travail fait par le secteur public ou autre, tout ce travail qui est fait qu'est-ce qu'on fait des mails aujourd'hui ? Avant, on gardait les courriers. Il y avait obligation de garder les courriers. On doit garder les mails ou pas ? Personne n'y pense. Comment on fait pour essayer de remettre à disposition peut-être des chercheurs, des générations futures, des éléments qui expliquent la façon dont notre société fonctionne ? Donc tout ça, ça pose d'énormes questions. Le fait d'être basculé dans l'ère numérique change la question que vous posiez. Savoir ce que l'on doit garder, la réponse n'est pas la même quand on était à l'ère du papier, quand on est à l'ère du numérique, parce que tout ça prend des proportions qui deviennent difficilement même intelligibles. Donc ça pose des problèmes de stockage, je l'ai évoqué très rapidement, des problèmes de formation des personnes qui doivent le faire. Ce n'est pas le même métier d'archiver du papier que d'archiver du numérique. Des problèmes d'accès pour les uns et les autres. Alors à propos d'accès, j'en termine là. Le site des archives départementales du Maine-et-Loire, il y a 2500 connexions par jour, ce qui en fait l'un des sites publics les plus visités du département. Et certaines pièces, notamment des photos, sont consultées plus de 300 000 fois.
Juste une petite anecdote. Je suis consultant pour le CNES et j'ai appris qu'il y a ça quelques années, la NASA a fait un appel pour un service. Ils avaient décidé de se débarrasser des archives papier de certains programmes. Et donc, le CNES s'est porté acquéreur parce que je ne sais pas si c'était 40 km de linéaire. En tout cas, et c'est très intéressant, la NASA a décidé de ne pas garder certaines archives qui correspondaient de sa naissance, et on va dire quelques années après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au début des années 2000. Les mauvaises langues disent qu'ils ont pu laisser glisser dedans certaines informations qui n'étaient pas tout à fait exactes. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est quand même assez fascinant de s'imaginer qu'une institution comme la NASA se dise « Non, je ne garde plus ». Donc, on pourrait dire que notre société, avec au-delà de la dimension administrative des archives telles que vous venez de l'évoquer, il y a effectivement toutes les données qui s'accumulent par notre civilisation qui est devenue numérique. Un être humain qui n'oublie rien, on dit qu'il a une mémoire eidétique. Et souvent, ça fait des êtres assez particuliers qui ont des problèmes à s'insérer dans la société parce que c'est une capacité qui est lourde. Et effectivement, est-ce que notre société a besoin de tout garder ou est-ce qu'elle a le droit à l'oubli? Et si on oublie certaines choses, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, par exemple pour les mails, donc pour tout ce qui est nos connexions numériques, il y a des fortes chances qu'il y ait des choses qui se perdent. Bah, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que sinon, s'il fallait effectivement tout garder, on arriverait à des choses qui sont ingérables. Et peut-être que l'oubli fait partie aussi de notre civilisation.
On a calculé, je crois, que la mémoire humaine doit correspondre à l'équivalent d'un bon gros disque dur. Et à propos de mémoire, on a la mémoire numérique. Donc la mémoire numérique, c'est des choses qui sont enregistrées, qui sont précises. La mémoire humaine, elle n'est pas fiable pareil. Donc Florence, par exemple, est-ce que vous pouvez parler de cette différence justement entre la mémoire humaine et la mémoire numérique?
Oui, je me suis posé la question dans Mémoire en Mi. J'ai eu l'idée, oui il est tout petit, j'ai eu l'idée de cette petite histoire en écrivant une plus grande qui s'appelle Théâtre pour l'éternité, où j'avais imaginé qu'on avait trouvé le moyen de ne plus vieillir. Donc j'ai pas pu traiter tout ce que ça m'avait fait réfléchir comme conséquence parce que c'était dans un futur très proche. Et donc voilà, dans Mémoire en Mi, qui se situe plus loin, au 22e siècle, je me suis posé cette question. Bon voilà, les humains, imaginons qu'ils puissent vivre deux siècles, trois siècles, comment se souviennent-ils de leurs premières années? Parce que nous, déjà, à l'âge adulte, on oublie nos premières années jusqu'à 3 ans, 4 ans. Et là, si on vit 300 ans, est-ce qu'on n'oublierait pas nos 20 premières années, nos 30 premières années? Bon, c'est une question qui se pose vu que le cerveau a une capacité limitée. Et j'ai imaginé donc, que dans ce monde futuriste, on, chaque jour de sa vie, même nourrisson, on enregistrait la mémoire de sa journée. Alors, je ne suis pas du tout posé la question, c'est vrai, du big data, comment on faisait. Bon, voilà, c'est une histoire.
Non, mais la science-fiction voilà. Est toujours un petit peu de mensonge, c'est pas grave.
Imaginons qu'on le puisse. Voilà, c'est ce que j'ai imaginé, donc sur un disque dur. Et là, se pose la question de la différence entre la mémoire et les souvenirs. Et toute mon histoire va vers cette question parce qu'il y a un échange de modules, en fait, involontaire, fait par des robots entre deux petites filles. Et il y a une petite fille qui a envie de visualiser ses premières années et qui entend une mélodie. Et elle est persuadée que sa mère lui jouait cette mélodie petite. Et elle n'en démord pas, même quand elle sait que les modules ont été échangés, elle n'en démord pas. Elle s'est fabriquée un souvenir. Et en fait, voilà, il y a cette différence-là très floue. Et moi, je trouve ça très, très intéressant aussi, tout ce qui se joue, sur, par exemple, sur Facebook. On nous dit qu'à à la mort d'un individu, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Alors, aujourd'hui, je crois qu'il y a une loi de la CNIL hein, qui est sortie très, très récemment, qui dit qu'un individu peut décider, il doit demander à un tiers qui est certifié par la CNIL, il doit décider si on garde ses données ou pas. Voilà. Mais ces données-là qui sont sur Facebook ou alors si on prend les mails, etc., c'est une toute petite partie de l'individu. C'est pas sa mémoire complète. Et moi, ça m'interroge beaucoup. J'aimerais bien avoir vos réponses là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Je vais vous raconter une petite histoire qui apparaît dans 100 ans de solitude, qui décrit la vie d'un village en Amérique latine. Et à un moment donné, la population commence à perdre la mémoire progressivement. Donc ça pose évidemment des problèmes assez importants. Donc ils sont obligés de trouver des dispositifs techniques pour se souvenir de ce qu'ils n'arrivent pas à se souvenir, ce dont ils n'arrivent pas à se souvenir. Et ça commence tout d'abord par indiquer, parce qu'ils perdent d'abord le sens des noms, des mots. Donc ils vont mettre chaises, vaches, etc., des petits panneaux disséminés dans le village. Mais comme la situation s'aggrave, alors c'est intéressant parce que c'est évidemment une parabole, la situation s'aggrave parce que la population cesse de dormir, parce qu'il y a un boom économique. Et, donc c'est aussi intéressant de voir comment la capacité d'être éveillé et d'être attentif au passé, on peut être aussi analysé. La situation s'aggrave et à un moment donné, en fait, ils voient vache, ils voient le mot vache, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, en fait. Donc il faut qu'une définition soit ajoutée à cette fiche-là et il est inscrit une vache, c'est un animal qui va faire du lait, mais il faut la traire deux fois par jour, etc. Alors pourquoi est-ce que je raconte ça ? Parce que justement, ce qui est intéressant dans la mémoire, c'est que ce n'est pas simplement le fait de pouvoir décoder, encoder et décoder des mots. C'est aussi la possibilité, en fait, de pouvoir leur redonner sens dans un cadre de signification et de définition linguistique, de dire qu'est-ce que c'est qu'une vache, donc donner une définition d'attributs, de caractéristiques. Mais surtout, ce qui est fondamental pour la question que vous posiez tout à l'heure, c'est que le sens d'un mot ou le sens d'une situation, elle est toujours engagée dans un système de pratique. Et là, évidemment, il y a quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, c'est de savoir comment... c'est pas simplement décoder le message dans 10 000 ans, c'est savoir comment le message pourrait être décodé de telle sorte qu'il puisse s'intégrer dans un champ de pratique. Si personne ne traite vache, effectivement, on pourra donner toutes les explications du monde et malgré tout, ça aura une mémoire qui sera en partie morte. En tout cas, elle ne pourra pas être récupérée dans un fait social collectif d'action partagée.
Il y a des... je me souviens d'une nouvelle de science-fiction ou peut-être d'une série, je ne sais plus, où les gens étaient admiratifs de tout ce que leurs ancêtres savaient faire et leur bande d'archives, c'était les films d'Hollywood. Donc, vous parliez des fantômes de la toile, justement, de comment est-ce qu'on peut gérer finalement cette éternité numérique qui n'est pas forcément souhaitable. Le fait qu'on vit et puis qu'on laisse des traces, quelquefois des traces multiples, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs comptes et plusieurs personnalités numériques, pourquoi pas, plus ou moins poreuses. Et donc la question de comment est-ce qu'on gère finalement le fait de conserver ou de ne pas conserver cette information.
Alors j'aimerais juste, exactement sur cette problématique, il y a un des épisodes de la série Black Mirror, je ne sais pas si, enfin pour ceux qui connaissent, ils vont voir de quoi je parle, c'est dans la première saison, c'est le premier ou le deuxième épisode, je crois, donc c'est une jeune femme qui vient de perdre son mari, et oui. Dans cet avenir, peut-être pas si éloigné que ça.
En anglais, c'est Be Right Back, mais je ne sais plus le titre en français.
Voilà. On lui propose un service de reconstituer un androïde qui va aller se nourrir des traces numériques laissées par son mari tout au long de sa vie. Donc en fait, dans cette série, il y a une réponse qui est apportée à l'éternité numérique, c'est-à-dire qu'effectivement, on considère que quand la personne décède, ces traces numériques sont en libre accès, et se pose après la question de savoir l'objet
d'intelligence artificielle qui s'est nourrie des traces numériques de l'individu, est-ce l'individu ? Et on en revient, à mon sens, à la question de, qui est très portée par les transhumanistes, à savoir est-ce qu'on peut downloader une conscience biologique sur un support, sur un substrat artificiel ? Et se pose la question de ce qui a fait notre personnalité, qui est ce qui se situe entre mémoire et souvenir. Moi, j'aime bien souvent dire que le souvenir, c'est ce qui reste de la mémoire avec une dimension affective. Et la mémoire va être plutôt une dimension plutôt froide. Si on arrive, et on touche à l'éternité numérique, si on arrive au fantasme que portent les transhumanistes, qui posent beaucoup de questions, est-ce que l'objet qui sera téléchargé, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelque chose qui est radicalement différent ?
Oui, ben moi, c'est vraiment la question que je me pose. Parce que je vois beaucoup de débats là-dessus sur ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, etc. Mais on peut pas garder la personne, en fait. C'est forcément des traces qu'on laisse en plus en ne pensant pas que ça va être utilisé après pour des commémorations, quelles qu'elles soient, pour que les proches se souviennent de nous à notre mort. Donc, et puis même, ça peut être une correspondance qu'on n'a pas envie que nos enfants découvrent quoi que ce soit. Donc, ce débat m'interroge vraiment évidemment au niveau éthique, voilà, et surtout parce que ce n'est pas la personne. On ne peut pas capter une personne, de toute façon, ne serait-ce que uniquement par ces traces numériques. Donc ça n'a pas de sens pour moi.
Pour répondre à votre question tout à l'heure sur la question de que conserver, je pense que déjà il faut distinguer deux types de situations. Une première situation que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est celle dans laquelle on veut transmettre un message qui soit suffisamment stabilisé et ouvert dans ses possibilités d'interprétation pour pouvoir être compris longtemps après. Et puis l'autre cas qui a été évoqué par notre collègue, c'est davantage l'idée de conserver une sorte de totalité d'un domaine à un moment donné de la pratique, de la production administrative, juridique et d'un moment en fait d'une population, avec cette idée qui est il y aura parmi cette diversité et cette totalité, il y aura suffisamment de matériaux pour qu'un regard curieux vienne y puiser pour trouver des informations. Donc transmettre un message et ouvrir une sorte de potentiel pour des informations futures, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, on essaye en quelque sorte de cadrer au maximum l'effet de signification et de se rapprocher par divers artifices de quelqu'un qui est très éloigné. D'un autre côté, finalement, peu importe, on essaye par rapport à notre perception de la production de données de dire, bon, on en fait le maximum et on conserve le maximum pour que des historiens du futur puissent éventuellement s'en emparer sans pouvoir anticiper, parce que c'est pas possible, les usages qui vont être faits. Donc c'est intéressant aussi de voir dans les usages, de la technique, il y a des objets qui peuvent transmettre des informations. Vous prenez une poterie. Elle peut vous dire beaucoup de choses, une poterie qui a été faite dans une période antique, sur l'organisation sociale, sur des circulations, etc. Mais ce n'est pas du tout les informations que le potier et sa famille ont voulu mettre dans cet objet-là.
Vous voulez réagir, Jacques ?
Oui, pour rebondir sur ce qui était dit juste avant concernant les informations que l'on souhaite laisser, puis celles qu'on ne voudrait pas laisser. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et le sujet commence à être un sujet dans le débat public parce qu'on est tous confrontés, ou directement ou indirectement, où on a entendu parler de ces fameux fantômes, qu'est-ce qu'on fait du compte Facebook de quelqu'un qui est décédé, pour être très clair. On estime qu'il y a 13 millions aujourd'hui de profils Facebook de personnes décédées. Et on estime qu'il y a 3 morts par minute sur Facebook. Le sujet est un sujet éminemment important pour ceux qui sont concernés, bien évidemment, et éminemment important sur ce que l'on va laisser, sur la manière dont on imagine qu'une information qu'on donne à un moment donné parce qu'on veut laisser une petite trace de quelque chose à l'attention de quelques-uns deviendrait quelque chose, justement, pour reprendre l'image de tout à l'heure, de gravé dans le marbre, alors peut-être pas dans le marbre, mais pour peut-être pas pour la postérité, mais pour plus loin. Pourquoi je dis pour plus loin ? Parce que interviennent ici, je me permets peut-être un tout petit point sur où on en est juridiquement, parce que tout ça, effectivement, a beaucoup bougé. C'est intéressant de savoir ce qu'il en est. La notion de droit à l'oubli, aujourd'hui, elle existe dans le droit en France. Avant, on n'avait que la loi informatique et liberté. Effectivement, depuis octobre l'année dernière, il y a la loi pour une république numérique qui traite plein de sujets, mais qui a notamment traité de cette question du droit à l'oubli et qui a traité d'une question très précise, qui est celle du droit à l'oubli pour les mineurs. Et elle crée une procédure qui fait que des informations qu'on laisse sur des réseaux sociaux quand on est mineur, une fois majeur, on peut très rapidement les faire effacer. Il y a l'idée que quand on est mineur, on peut peut-être laisser des traces qu'on ne souhaiterait pas. Alors on a lu tous des papiers là-dessus, pas laisser à disposition d'un futur employeur avant un entretien d'embauche, à disposition de... Bref. Cette loi, elle traite aussi du sujet de la mort numérique. Et c'est elle qui, effectivement, laisse la possibilité aux uns et aux autres de dire, ben voilà, moi, mon intention sur les données, sur les comptes, sur les réseaux sociaux notamment, mais pas seulement, mes données numériques, voilà ce que je souhaite qu'il en advienne. Je peux souhaiter qu'elles soient effacées. Et d'ailleurs, ça n'est pas prévu dans la loi pour l'instant, mais actuellement, les notaires sont en train de réfléchir à la manière dont les données pourraient être constitutives d'éléments d'héritage, au sens hérité pour la suite. Je passe très rapidement parce que cette loi, c'est 2016. Il va se passer autre chose. Au mois de mai l'année prochaine, en mai 2018, nous allons abandonner, parce qu'elle est morte de sa belle mort, pour rester dans le sujet, la loi informatique et liberté qu'on connaît tous de nom, qui date de 1978. Elle a 40 ans. Elle est un peu périmée, notamment parce que le big data et tout ça, ça n'existait pas, même si elle a été adaptée depuis. Et on va passer sur un nouveau règlement de protection des données, extrêmement protecteur, qui est un règlement européen, le règlement général de la protection des données, qui va s'appliquer en mai prochain dans les 28 pays européens. Et je la fais brève, on a aligné pour les 28 pays européens le niveau de protection des deux pays les plus protecteurs en Europe, qui sont la France et l'Allemagne. Et ce processus dont vous allez entendre parler dans les médias, parce que ça va chambouler pas mal de choses pour les entreprises, les administrations françaises, ce processus, il crée un nouveau droit qui est le droit à l'effacement. C'est la possibilité qu'on aura à tout moment de dire dans les données personnelles que j'ai laissées de ci, de là, dans les informations que j'ai laissées de ci, de là, je souhaite qu'on efface ceci ou cela. C'est quelque chose d'assez nouveau. On ne sait pas encore trop comment ça va se mettre en place, mais c'est très intéressant parce que ça nous redonne la main sur nos données et je pense qu'il était temps que cela arrive. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure en termes de comparaison des modèles de ce qui se développe ailleurs dans le monde, mais on est en train d'assister à quelque chose de tout à fait nouveau en France et en Europe sur le sujet, qui est peut-être une prise de conscience qui a à voir avec notre sujet de la table ronde.
Olivier ?
Oui, juste une remarque. Effectivement, cette loi, elle est très intéressante. À la nuance près que on parle d'éternité numérique, on pourrait aussi parler d'ubiquité numérique. C'est-à-dire qu'une donnée, elle peut être redondée, excusez-moi de ce néologisme, répétée. Donc, on a beau effectivement demander l'effacement sur un site Facebook, Google+, Twitter, etc. En tout cas, on n'aura pas la garantie que toutes les traces soient effacées du fait de la redondance naturelle d'Internet.
Alors, en théorie, c'est prévu pour, avec un truc très particulier qui est une innovation. Alors, les juristes, je m'excuse auprès des juristes s'il y en a dans la salle, parce que peut-être que ce que je vais dire, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le présenter, mais ce droit à la protection des données voulu pour les 28 pays européens, dans les 28 pays européens, en vérité, il traite les données des Européens des 28 pays, où que ça se passe dans le monde. Ça va protéger nos données, y compris. C'est une extraterritorialité de ce droit. Et par ailleurs, comme elle est assortie, cette réglementation, de sanctions extrêmement importantes, Google et Facebook, pour rester sur ces deux-là, s'ils n'appliquent pas nos demandes en matière d'effacement de nos données qu'ils stockent chez eux aux États-Unis, les sanctions pourront aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, ce qui va être une petite révolution dans la réglementation du monde numérique.
Et la Chine là-dedans, elle est où ?
J'allais poser la question autrement, c'est-à-dire que oui, la Chine où elle est, mais on parle d'éternité numérique. C'est l'éternité numérique, c'est pour qui ? Parce que tout le monde n'a pas le même accès aux technologies, tout le monde n'a pas le même niveau de numérisation, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et tout le monde ne stocke pas les mêmes informations.
Avec ce qui a été dit sur les archives, effectivement, il y a effectivement la dimension du patrimoine. Donc ça, c'est une première chose. Et ça, je pense que ça fait partie, ça fait partie des choses qui doivent être gardées. Et juste pour une petite anecdote, dans nos familles, on se transmet tous des cartons de photos. Et à la génération suivante, la charge de trier ou de donner au fond d'archives ce genre de photos qui peuvent servir et qui sont très importantes pour les sociologues pour comprendre et puis connaître certaines pratiques et certaines interactions. Avec la fin de la photo numérique et avant le cloud, en fait, on s'est aperçu que juste pour le cas des photos, en fait, il va nous manquer, pour les sociologues, il va leur manquer 5, 10, 20 ans. Le temps que les gens apprennent à maîtriser l'outil numérique, que les appareils photo passent de format... les premières photos faisaient 640 pixels, il ne faut pas oublier. Hein, donc elles étaient très mauvaises, donc elles ont été souvent perdues. Alors c'est une anecdote, mais ça montre bien que l'outil numérique demande un apprentissage. Alors c'est vrai que nos enfants et les enfants de nos enfants auront à la fois... seront nés dans cet univers, donc ils auront d'autres habitudes que nous. Nous, on a la particularité d'être à la transition entre le monde analogique et le monde digitalisé. Après, il y a dans les autres types de données, il y a toutes les données liées aux entreprises, donc qui peuvent être les données bancaires, les données tout ce qui fait que une économie marche. Et puis après, il y a tout un bruit numérique, nos mails, nos tweets, etc. Et juste pour ceux qui l'ont vu, dans la dernière sortie de Blade Runner, il y a un petit truc qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont créé un événement qui n'existe pas dans la nouvelle originale, dans le roman original de Philip K. Dick, qui n'existe pas non plus dans le premier film, c'est le blackout. Ils ont créé un événement qui fait qu'une partie, une grande partie, très grande partie des données numériques ont été effacées. On ne sait pas si c'est un hacking, on ne sait pas si c'est un accident, on ne sait pas si c'est... Voilà, peu importe. Et pourquoi je cite ça, c'est que pour parler, on l'a évoqué au début de cette table ronde, pour parler d'éternité numérique, il faut parler de pérennité des supports. Et pour l'instant, on fonce, nos sociétés foncent à tombeau ouvert vers la digitalisation, donc vers la numérisation de toutes les données, sans vraiment, même s'il y a des recherches qui sont faites, on a parlé de l'ADN, il y a les systèmes holographiques aussi qui sont en voie de développement, mais en tout cas pour le moment, on est sur des systèmes magnétiques qui sont avec des redondances suffisamment nombreuses, mais il ne serait pas complètement idiot de dire qu'il y a un risque. À ce moment-là, se pose à nouveau la question de l'éternité, que ce soit les archives qui sont numérisées, que ce soit les documents des activités économiques, que ce soit nos propres mémoires numériques. Il va falloir quand même que nous passions d'un état, on va dire, de naissance de l'informatique à un autre état qui soit un peu plus moins enfant, un peu plus adolescent, voire adulte de cette ère. Parce que pour l'instant, à mon sens, on est encore très très jeune sur les outils numériques.
Oui, et puis on a des exemples historiques de techniques de conservation de la mémoire, de type d'écriture qui ont émergé dans certaines aires culturelles. Ces savoirs ont perduré tant qu'ils ont pu être transmis. Ça veut dire, et là le mot qui a été prononcé est fondamental, c'est la question de l'apprentissage en fait. C'est pas simplement transmettre des informations, c'est réactualiser d'une façon... régulière pour chaque génération, en somme, des apprentissages qui font que les informations sont insérées dans des pratiques, dans des préoccupations courantes. Dès lors que l'information devient juste une lettre morte, elle peut au mieux intéresser un historien qui va en trouver un signe d'autre chose. Mais si on veut que ça soit un message qui cadre, enfin qui fasse sens pour les générations futures, il faut que ça soit accompagné de cette, pas simplement de la fabrication du message, mais de l'apprentissage à en faire quelque chose. Et évidemment, là, il y a quelque chose de très aléatoire parce que on peut, comme on dit, on a une obligation de moyens en quelque sorte sur ce qu'on peut laisser à disposition. Mais s'il n'y a pas à chaque période, et puis il y a aussi une évolution des préoccupations de chaque. Enfin, c'est propre de l'histoire humaine, c'est-à-dire quelque chose qui semble essentiel à une période donnée, deux siècles après, ça semble pas du tout important.
Donc la question de l'obsolescence de l'information qu'on laisse finalement.
Mais elle est aussi ancienne que la question de la transmission de la mémoire. C'est encore une fois l'articulation entre une mémoire vive accompagnée d'une parole et éventuellement de situations d'apprentissage en face à face et le fait que des objets peuvent traverser les périodes ou en tout cas les générations. Il faut qu'il y ait un mode d'emploi. En fait, l'idée c'est qu'un objet doit avoir un mode d'emploi, mais un mode d'emploi. Ce n'est pas simplement le texte mal écrit qui est dans la boîte à côté de l'objet. Le mode d'emploi, c'est finalement un mode d'emploi pour expliquer comment faire le mode d'emploi. Donc, en fait, c'est un monde social qui assure cette transition. C'est jamais dans l'objet technique que la permanence peut être obtenue.
Pour donner un exemple de cette nécessité de l'apprentissage, quand les conquistadors sont arrivés en Amérique du Sud, les peuples qui étaient donc les peuples amérindiens avaient, on connaît tous ce mot, avaient des quipus, donc qui sont un système de codage de l'information par des nœuds sur des cordes. Pendant plusieurs années, après l'installation des conquistadors, ils avaient très bien compris l'intérêt du quipu. Donc ils ont utilisé des Amérindiens qui leur codaient ces messages, et donc ça, les quipus ont servi de messagers au sein des nouveaux conquérants, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent en fait qu'ils étaient à la merci entre guillemets de ces codeurs. Donc on a abandonné le quipu pour récupérer la maîtrise du message. Et maintenant, trois siècles plus tard, nous sommes incapables de décoder les quipus, alors qu'on sait qu'il y aurait des informations.
Oui, enfin, c'est encore des systèmes qui sont utilisés au Pérou. Donc, il y a des travaux qui permettent. Effectivement, on a perdu un grand savoir, mais c'est encore utilisé d'une façon très régulière. Et pas simplement pour compter le nombre d'habitants dans le village. C'est vraiment des supports à la cognition qui sont aussi sophistiqués que l'écriture, en fait. C'est ce que montrent les travaux contemporains.
Je crois qu'on va arriver à l'heure à laquelle il est temps de donner la parole au public. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Est-ce qu'on y voit quelqu'un ? Je vois quelqu'un devant. Alors, est-ce qu'il y a des micros à faire passer dans le public ? Oui. Oui, devant.
Attention. Alors, où c'est, où ça ?
Là, monsieur.
Oui, c'est pas vraiment une question, mais c'est un rappel. Langlois de la Cinémathèque française avait dit qu'il n'était pas question de perdre le moindre centimètre de film, car on est absolument incapable de savoir ce qui intéressera les gens dans un siècle, dans deux siècles, dans trois siècles. Seulement avec le numérique, ça devient un casse-tête chinois.
C'est pas tant, enfin c'est pas un casse-tête chinois, parce que là on est sur un artefact, c'est-à-dire que là on a un objet qui est culturel, et d'ailleurs il y a des archivistes et des historiens qui redécouvrent assez régulièrement des bobines, et on renumérise et on reconstitue, et donc effectivement ce qui est de l'ordre de la culture fait partie de la mémoire de notre civilisation. C'est, à mon sens, on est dans un autre type de mémoire que les échanges Twitter qu'on peut avoir. Et par contre, là, effectivement, nos civilisations ont un devoir de ne rien laisser passer. Et se pose effectivement la question de quel support on va pouvoir inventer qui restera accessible à l'avenir de manière la plus simple. Quand on parlait de l'ADN pour coder des informations, quand on parlait des blocs holographiques, c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il faut que la civilisation qui vient après nous, elle ait les moyens de comprendre et d'interpréter cet objet. C'est pour ça que, comme je le disais au début de la table ronde, on en revient à de la gravure. On en revient à prendre un marteau et on tape sur un support dur, si ce n'est que là, on le fait à l'échelle microscopique. Mais en tout cas, suffisamment grande pour qu'une personne qui tombe sur ce truc se dise « Ah bah tiens, c'est bizarre. Ah bah il y a un truc. » Et je me rapproche, « Ah bah oui, il y a... » Voilà, donc, ce qui veut dire qu'il va peut-être falloir, si on veut garder des traces pérennes de ce genre de choses, ben, avoir des, à nouveau des kilomètres d'étagères si on veut garder le genre de traces de mémoire. Mais ça pose une question pour les œuvres d'art qui, autre que le cinéma, est-ce que la Joconde ou on va dire tout le Louvre, est-ce qu'il ne faut pas le numériser? Parce que peut-être, on a vu ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et on a parfois pour certaines œuvres que des photos en noir et blanc ou pas très bonne qualité d'œuvres qui sont considérées par les historiens de l'art comme majeures. Donc peut-être que notre civilisation a un devoir de mémoire, voilà, de garder. Donc oui, effectivement, là, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser sur l'ordre du culturel.
Je peux vous laisser faire le temps. Merci.
Ah.
Alors,
il y a la dame là-bas.
Oui, bonsoir. Je voulais. Bon, c'est une remarque, mais j'imagine que vous pourrez en développer des choses. J'étais étonnée de ne pas avoir entendu pour l'instant dans vos interventions la question, pas uniquement du décryptage ou de l'interprétation des traces qu'on laisse dans très longtemps, mais du décryptage des intentions qui font qu'aujourd'hui on archive et qu'on n'archive pas uniquement pour le futur. Et je pense, par exemple, aux renseignements politiques, aux archives judiciaires et criminelles, à toutes les datas commerciales. Enfin, c'est un peu des banalités de dire tout ça, mais c'est-à-dire toutes les intentions de ceux et celles, enfin, des organismes qui archivent, que ce soit privé ou public, et des problématiques que ça pose. Et je voulais juste évoquer une petite anecdote pour l'illustrer. J'ai lu que pendant la Troisième République en France, donc au milieu du XXe siècle, le numéro de sécurité sociale qui a été instauré et mis en place pour la population française comprenait dans le codage du numéro de la Sécu la confession religieuse et un certain nombre de caractéristiques culturo-religioso-ethniques, ou je ne sais pas comment dire, qui ont été utilisées par la suite par le régime de Vichy, notamment pour retrouver les Juifs français en Algérie et un certain nombre d'autres choses. Donc simplement pour dire que, pour moi, parler de l'archivage et l'archivage pour le futur, c'est aussi le futur proche, et ce n'est pas uniquement l'angoisse qu'on ne nous comprenne pas, c'est aussi l'angoisse qu'on utilise des données contre nous, ou en tout cas, voilà, contre la manière dont j'ai envie de vivre dans cette société, quoi. Et voilà.
Florence ?
Oui, bah, merci pour cette question. C'est vrai, parce que j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais c'était à l'échelle de la civilisation, en effet. Et moi, je me suis plus posé la question, comme vous, à l'échelle de l'individu. Et toutes ces questions, je me les pose comme vous. Et d'autant plus qu'il y a, depuis peu de temps, le fichier TESS, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les titres électroniques sécurisés, qui font qu'on a toutes nos données dans des 160 millions de Français dans un seul fichier. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une société, voilà. Bon. Et c'est toutes ces traces que l'on laisse et qui sont... absolument pas, on peut pas les cercler, quoi. Et même, et quand on est mort, bon, Facebook, Google, tout ça, ils ont beau dire oui, si vous voulez, on effacera les données, puisqu'elles sont redondantes, elles seront là, les données aussi. Donc il y a le droit à l'oubli, il est très 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 théorique, quoi. Voilà. Et toutes ces questions au niveau éthique sont problématiques à l'échelle de l'individu, oui.
Ce qui est certain, c'est que la capacité à collecter un nombre absolument colossal d'informations sur chacune et chacun d'entre nous ouvre la porte à énormément de dérives et de choses pour lesquelles on n'a pas donné notre consentement. Parce qu'après tout, si on est d'accord et que les choses sont claires, que le consentement nous a été demandé de façon tout à fait éclairée, après tout, pourquoi pas? Et c'est sans doute le modèle qui est en train de se développer sur le continent nord-américain au départ de la Californie, qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, lorsque l'on veut entreprendre une action commerciale ou être candidat à une élection, on va acheter le fichier des personnes que l'on vise et on peut avoir jusqu'à 1500 lignes, 1500 informations par personne. Et c'est des données qui sont tout à fait accessibles. Aujourd'hui, en France, ça n'est non seulement ça n'existe pas, ça n'est, si ça existait, ça serait complètement illégal. La question, c'est comment est-ce que l'on peut à la fois être conscient de ce qui se passe et des mécanismes qui sont à l'œuvre, et le cas échéant, si on n'est pas d'accord, s'en prémunir, s'en protéger. Comment est-ce qu'on est conscient ? Il est extrêmement important qu'il y ait un maximum de temps, de lieux, les Utopiales y concourent, beaucoup d'autres initiatives sont prises de diffusion de la culture de la donnée. Qu'est-ce que c'est que la donnée ? Et de ce point de vue-là, on va probablement assister, moi j'imagine qu'il va y avoir à un moment donné une inversion de ce qu'on appelle aujourd'hui la fracture numérique, qui fait que la fracture, ça va être entre les générations qui arrivent et nous, et on va se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus conscients, parce qu'ils ont toujours été dans ce type de dispositif. Juste une petite anecdote là-dessus, aujourd'hui, celles et ceux qui utilisent le plus les bloqueurs de publicité sur Internet, ce sont les adolescents, et soyons clairs entre nous, ce n'est pas leurs parents qui leur ont appris à s'en servir. Donc, comment est-ce qu'on est conscient de ce qui est en train de se jouer, de ce qu'est un algorithme, de comment ces algorithmes entrent en œuvre, qu'il s'agisse de démarches commerciales ou de démarches dans le fonctionnement de la vie de la cité, ça peut être politique, judiciaire ou autre, vous l'avez évoqué. À partir de là, quelles sont les stratégies personnelles ? Aujourd'hui, on voit émerger des initiatives très intéressantes pour reprendre le contrôle de nos données. Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement du self-data. Il y a des initiatives en France, ça s'appelle le programme Mes Infos. Il y en a d'autres ailleurs, il y en a d'autres en France aussi, qui sont des démarches par lesquelles des citoyens se disent « Je reprends le contrôle de mes données, je les mets dans un espèce de conteneur crypté, sécurisé, j'en ai totalement la maîtrise et à chaque fois que quelqu'un veut s'en servir, je dois redonner, il doit me dire pourquoi je dois redonner mon consentement. » Au passage, c'est un petit peu ce que le règlement européen dont on parlait tout à l'heure va essayer de faire, parce que là où aujourd'hui, on a l'autorisation qu'on donne, vous m'arrêtez si je suis trop long, l'autorisation qu'on donne via les règles de la CNIL, je suis d'accord pour que vous utilisiez mes données. Demain, on devra dire, je suis d'accord pour que vous utilisiez mes données à cette fin précise. Et à chaque fois que vous allez vouloir vous en servir pour autre chose, il faudra que je puisse à nouveau donner mon consentement. Donc on va aller vers ce genre d'évolution. En Europe, il y a effectivement le modèle californien qui, pour faire simple, qui est en train de se répandre, qui est un modèle no limit, tout est ouvert, tout est transparent, c'est un petit peu le cercle pour ceux qui ont lu le roman, qui était un roman de science-fiction lorsqu'il a été écrit, de légère anticipation lorsqu'il était traduit en français, si vous ne vous dépêchez pas de le lire, ça sera un reportage. Et puis il y a le modèle, je dirais asiatique de façon globale, le modèle chinois, qui est un autre modèle, qui est un modèle dans lequel toutes les données qui sont collectées servent aussi à monitorer le pays et à monitorer la vie de la cité, qui est une autre approche.
Juste très très vite, par rapport à ces données immédiates, on a tous un téléphone en poche, il enregistre tous nos déplacements, et il y a un truc qui est en train d'apparaître avec les montres connectées, ce sont les données biométriques, battements de cœur et ce genre de choses, pression artérielle, etc. Donc, on a quitté la notion de l'éternité numérique, on est vraiment dans un rapport à l'utilisation que l'on autorise ou pas. Je rêverais de me payer une iWatch. Je le ferai jamais. Jusqu'à ce qu'un assureur me dise « Ah, écoutez, monsieur Parent, je vous offre 20, 30, 40% sur votre police d'assurance, sur votre mutuelle, si vous prenez une montre connectée qui va m'assurer que vous êtes bien en bonne santé, etc. etc. » Et combien de nous diront non ? C'est une question qu'on
peut se poser. Vous savez qu'on peut déjà avoir une réduction sur une assurance à condition d'accepter d'avoir un mouchard dans sa voiture, sur une assurance automobile.
Oui.
Oui, bonjour. Alors, j'avais une remarque et une question. Alors, une remarque, c'était par rapport à Blade Runner 2049. Donc, vous parliez du blackout. On ne sait pas comment il est apparu. En fait, il y a une explication dans trois courts-métrages qui sont apparus juste avant le film, notamment le court-métrage réalisé par Shinichiro Watanabe, qui montre en fait que c'est un attentat en fait perpétué par des réplicants. Au niveau de la question, c'était plutôt par rapport à la loi, projet de loi qui aura lieu l'année prochaine, enfin qui va être appliqué l'année prochaine. En fait, il y a un proverbe qui dit, en gros, Internet n'oublie jamais, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que finalement cette loi, elle va pas être un peu inefficace, notamment sur du Twitter où on peut prendre directement une capture d'écran et au final, même si on supprime la donnée de la personne, son droit à l'oubli finalement ne sera jamais vraiment respecté.
ou sur les projets comme la Web App Machine qui enregistre les sites web régulièrement.
Oui. Même il y a Snapchat par exemple tout simplement qui promettait d'avoir, qui promettait finalement des posts éphémères et l'oubli direct de ce qu'on poste. Et puis au final, on s'est aperçu qu'avec un peu de hack, on pouvait récupérer les vidéos et les conserver.
Alors, vous avez nécessairement raison. Simplement, le fait de faire émerger un droit à l'effacement dans l'endroit où ça a été stocké pour les fins pour lesquelles on avait donné notre consentement, donc effacement également dans les autres lieux de stockage pour des réplications, hein. Ça n'est pas la même. Je prends l'exemple de Google pour rester sur l'exemple qui nous vient le premier à l'esprit à tous. Vous avez le droit, vous aurez le droit de demander à ce que votre nom ne soit plus accolé à telle ou telle page qui ressort actuellement lorsque on fait une recherche vous concernant, parce que soit ça ne vous plaît pas, soit parce que ça vous crée un préjudice, soit parce que vous pensez que ça pourrait vous créer un préjudice. Si quelqu'un en a gardé la trace quelque part et l'a mis sur un obscur site au fin fond de sa propre sphère d'influence, ça n'a rien à voir avec le fait que cette information ressorte aujourd'hui sur Google dans le monde entier. Donc effectivement, il y aura toujours des choses qui auront été captées, de la manière que les captures d'écran ont mis en difficulté ou invalidé la promesse de Snapchat. Mais globalement, sur l'ensemble du dispositif, et il y aura des contrôles extrêmement importants. Je parle là encore de l'émergence d'un modèle européen qui est en train de se construire sous nos yeux. La semaine dernière, Facebook a été lourdement condamné en Espagne. En début de semaine, c'était à l'échelle européenne. Les choses vont s'amplifier considérablement. On peut faire le pari un peu optimiste que d'ici quelques années d'application de ce règlement, il y ait un véritable modèle européen qui émerge face aux excès que nous constatons et que nous subissons actuellement.
Une dernière question.
Ce qui n'empêche pas un comportement intelligent, donc avec un apprentissage des outils numériques.
L'apprentissage, de toute façon, est une clé dans l'utilisation de n'importe quel outil. Avec un marteau, c'est plus évident qu'avec Internet. Mais...
Bonjour, merci pour cette table ronde très intéressante. J'aimerais savoir, concernant le droit à l'oubli, en fait, j'ai du mal à croire à la puissance des États à faire pression sur des gros poissons comme Facebook et Google. Et je me demande toujours, peut-être on peut influencer, les influer, mais les petits poissons arriveront à conserver une certaine impression, comme ce que disait l'interlocuteur précédent, sur faire des copies d'écran, par exemple, sur Twitter, c'est toujours possible. J'ai vu ça pendant des années sur Internet. Donc j'ai du mal à y croire, et je me demande plutôt comment on va expliquer à nos enfants que, nouvelle génération, que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vivent, parce que tout est enregistré, comment on va leur expliquer qu'ils n'auront jamais la possibilité d'oublier. Le professeur Eustache nous disait que la mémoire se travaille et se biaise au fur et à mesure du temps, et avec l'éternité numérique, c'est impossible. On ne pourra pas oublier toutes nos situations embarrassantes. C'est une question que j'avais.
Mais je pense que vous donnez vous-même la réponse, c'est-à-dire... L'argument que vous proposez, qui est la difficulté d'appliquer le droit, n'a jamais été un argument qui a empêché d'essayer de le faire, de construire des systèmes normatifs. Et le fait que le droit puisse être associé avec le principe d'éducation et des valeurs qui sont transmises n'est pas en opposition. Au contraire, je pense que c'est complémentaire. Donc construire un monde commun, c'est toujours le faire à partir de valeurs partagées, d'un projet, d'un système éducatif, d'un système de règles. Et évidemment, c'est jamais prenez les homicides, c'est pas parce qu'il y a une interdiction de tuer des gens qu'il n'y a pas d'homicide. Mais bon, ça s'accompagne, si vous voulez, c'est un cadre qui est légal, moral, éducatif, et je pense que c'est un nouvel objet qui est en train d'émerger. Le fait que ça marche pas au début, le fait qu'il y ait des exceptions, le fait qu'il y ait des difficultés, n'est pas un argument contre le désir de vouloir résister à l'emprise des grands groupes ou à des usages pervers ou commerciaux ou totalitaires. Je crois qu'au contraire, c'est un argument pour redoubler d'efforts, d'inventivité, d'intelligence collective, dans le fond, pour montrer qu'on doit s'emparer de l'innovation aussi d'une façon intelligente.
Bon, ça me paraît une assez jolie conclusion. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Merci à tous d'y avoir assisté.